bonjour.
Bonjour, les réseaux de soins ont les faveurs de la population, à en croire les résultats d'un sondage publié ce matin par Santé Suisse, l'association fêtière des assureurs maladie. 69% des sondés estiment que les soins intégrés augmentent la qualité des traitements, nous dira Christelle Domangeau. Nous ferons ensuite le point sur ces chiffres et sur les primes 2011 avec le président de Santé Suisse, Claude Ruet. Toujours au menu de ce journal, les bons résultats de Public Group au premier semestre 2010, alors que les ventes sont en baisse. Nous appellerons aussi Louis Bertignac, ancien guitariste du groupe de rock français Téléphone, qui sera vendredi soir sur la scène du festival Terre des Hommes Vallée à Massonger. Nous lui demanderons si la rumeur d'une possible reformation du groupe à l'horizon 2013 se précise. Et on débute aujourd'hui une série d'entretiens autour de la rentrée littéraire. Nous recevrons des écrivains tout au long de la semaine. Première invitée, Virginie Mouza, pour son deuxième roman, La vie adulte, publié chez Albin Michel, le récit à la première personne de la vie de Dominique, qui doit faire face au départ brutal et sans explication de sa mère alors qu'elle est encore adolescente. Virginie Mouza sera notre invitée à la fin de ce journal. Le temps s'annonce changeant cet après-midi avec des averses possibles le long des reliefs, une limite plus neige à 1700 mètres et des maximales de l'ordre de 16 degrés en pleine. Amélioration demain matin avec moins de nuages et plus de soleil, mais il fera toujours frais. Au lever du jour, 8 petits degrés sur le plateau, 20 au meilleur de la journée. L'embellie s'annonce encore plus nette pour mercredi, nous dira Pascal Bénard. C'est un sondage publié ce matin par Santé Suisse qui l'affirme. La majorité des Suisses est favorable au réseau de soins. L'étude, mandatée par l'association fêtière des assureurs maladie, montre que 69% des sondés pensent que les soins intégrés augmentent la qualité des traitements médicaux. Et ils sont 65% à la voir comme un moyen de réduire les coûts de la santé. Christelle Domangeau.
Les réseaux de soins bénéficient d'une bonne notoriété. C'est l'enseignement principal de ce 8e sondage santé. 2/3 des sondés en ont entendu parler. Une proportion qui monte encore chez les personnes ayant un bon niveau de formation, des revenus supérieurs et les 34-54 ans. Des sondés qui voient majoritairement des avantages à ce modèle actuellement discuté au Parlement. C'est un bon moyen pour avoir des spécialistes rapidement sous la main, pour réduire les coûts et améliorer la qualité des soins. Par contre, la limitation du libre choix des médecins est un sujet sensible et plus de la moitié des sondés préfèrent encore payer des primes plus élevées plutôt que d'accepter des restrictions dans ce domaine. Autre point sensible, objet également d'âpres discussions actuellement au Parlement, celui des incitations à entrer dans un réseau de soins. Le projet prévoit de faire passer la participation aux frais des assurés de 10 à 20% pour ceux qui résistent encore au réseau de soins. 1/3 seulement des assurés adhéreraient à cette idée. Or, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé un référendum si cette augmentation de la quote-part devait encore figurer dans la loi à la fin des débats.
Et ce sondage a été réalisé auprès de plus de 1200 personnes de toute la Suisse par l'Institut Démoscope avec une marge d'erreur de 2,8%. Bonjour Claude Ruet.
Bonjour monsieur.
Président de Santé Suisse, vous êtes en direct de nos studios du Palais Fédéral. Dans ce sondage, la bonne surprise, c'est que la population connaît le principe des réseaux de soins. Mais la mauvaise, c'est qu'ils ne semblent pas prêts à soutenir une hausse de la quote-part de 10 à 20% pour ceux qui choisissent de rester en dehors d'un réseau de soins. Vous ne pensez pas que le moment est venu de revoir votre position ?
Bon, c'est pas la position de Santé Suisse, c'est le Conseil national qui a pris une position à ce sujet. Il faut peut-être dire quand même pour les gens que la quote-part, 20%, elle est limitée à 1 000 ou à 1 400 francs au maximum par année. Cela dit, la commission des États est en train d'étudier s'il y a d'autres solutions et je crois que monsieur Burkhalter aussi essaie de trouver des solutions de compromis. L'idée, n'est-ce pas, c'est qu'un réseau de soins intégrés, ça signifie que les médecins travaillent autour de vous en coordination. Vous êtes mieux suivi, il y a une meilleure qualité. Mais évidemment, la crainte, c'est que les gens n'entrent pas dans ces réseaux parce qu'on n'en a pas l'habitude, en particulier en Suisse romande. En Suisse allemande, il y a 30% des gens qui sont déjà dans des réseaux. Donc, il faut qu'il y ait un petit incitatif. Alors, quel est l'incitatif le meilleur? C'est encore à discuter aux chambres.
On entre ces prochaines semaines dans une période délicate, celle des négociations pour les primes 2011. Des assureurs ont publié leurs primes sur Internet avant validation par l'Office fédéral de la santé publique. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors ça m'inspire pas grand-chose comme président de Santé Suisse parce que nous sommes une association d'assureurs qui ne nous préoccupons pas de la gestion des assurances en tant que telle et par conséquent chaque assureur fait évidemment comme il le pense et comme il le veut. C'est justement ça l'avantage du système suisse qui fait que les frais administratifs sont encore baissés de 2008 à 2009 en Suisse grâce à cette concurrence. Mais si des assureurs veulent le faire alors qu'il semble qu'il y avait un accord avec M. Burkhalter entre les assureurs individuellement et le département fédéral des de l'intérieur. Je suis un peu surpris de cette position.
Sur la question des réserves des caisses maladie, Claude Ruet, qu'est-ce que vous avez à répondre à la colère de certains cantons, comme Vaud, Genève, Neuchâtel, le Jura, qui s'insurgent du transfert de certaines réserves à d'autres cantons?
Alors écoutez, là non plus, Santé Suisse n'en sait rien. Il s'agit effectivement de faire en sorte, et nous sommes favorables à cela, à ce que les primes soient les plus proches possibles des dépenses de santé. Mais je rappelle quand même que les cantons dont vous parlez, en particulier Genève et Vaud, sont les cantons les plus chers de Suisse avec Bâle. Alors, c'est pas étonnant que les primes soient malheureusement plus élevées, puisqu'il faut couvrir des dépenses de santé importantes. Cela dit, il faut quand même voir que ces réserves, ça n'est jamais qu'un mois et demi de primes, hein, et rapporter un assuré dans le canton de Vaud, si vraiment il y a une exagération, et il faut qu'elle soit corrigée, je partage ce point de vue, il faut qu'elle soit corrigée. S'il y a une exagération, c'est de l'ordre de 5 francs par année, par mois, donc ça n'est pas évidemment là que se situe le plus gros problème. Mais c'est un problème à régler.
Vous lancez aujourd'hui une campagne d'information, toujours avec vous.ch. C'est quoi? C'est pour prévenir les dégâts d'image que la hausse des primes vont encore faire aux assureurs?
Non, parce que ça fait des années que cela dure, cette augmentation des dépenses de santé. Les assureurs, ils doivent encaisser de l'argent pour payer les factures qui lui sont envoyées. Et évidemment que si on encaisse moins que ce qu'on doit payer, ça pose un problème. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir responsabiliser l'assuré pour qu'il comprenne le système. Et on sait que le système est extrêmement compliqué en Suisse, comme dans tous les pays occidentaux d'ailleurs. On a un problème d'explication. Il y a dans ce domaine, il y a le problème médical, il y a des questions scientifiques, il y a des questions administratives, il y a des économistes qui sont dans le coup, et encore des politiciens locaux, régionaux, cantonaux et fédéraux. Donc ça rend le système extrêmement difficile à comprendre. Et ce que nous voulons, c'est que l'assuré, le patient, soit le plus conscient de ce qui se passe, qu'il puisse prendre ses responsabilités, qu'il puisse mieux connaître ce que c'est que, par exemple, prendre le choix d'un médecin de famille ou d'un réseau de soins pour pouvoir lui-même bénéficier de la meilleure qualité possible.
Un pronostic peut-être, l'augmentation, elle sera de combien cette année ?
J'ai aucune idée de ce qu'est l'augmentation. Ce que je sais, c'est que sur le monitoring global de Suisse, les coûts de 2009 à 2010 augmentent de l'ordre de 3,4 à 3,9%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme les assureurs n'ayant pas le droit de faire du bénéfice, ils ont encaissé moins de primes que ce qu'ils ont dû payer en facture. Il suffit pas de prendre la hausse des coûts, il faut encore rattraper ce qu'ils n'ont pas pu payer parce qu'ils sont en déficit. Toutes les réserves, comme on le sait, sont allouées entièrement aux assurés puisque les assureurs ne font pas de bénéfices, ils n'ont pas le droit d'en faire.
Merci beaucoup Claude Ruet d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal. Président de Santé Suisse, vous répondez à l'invitation de Christelle Domangeau. Bon après-midi à vous, merci.
Merci à vous aussi.
Et en parlant de politique, duel au sommet ce soir dans Forum. Le président du Parti Socialiste, Christian Levrat, débattra avec son homologue du PDC, Christophe Darbelay, de l'opportunité pour la droite de reprendre ou pas le domaine de l'énergie, des transports et de l'environnement de Moritz Schellenberger. Débat à suivre à partir de 18h sur la première. Économie avec les chiffres noirs de Public Group au premier semestre 2010. La restructuration du groupe multimédia vaudois commence à porter ses fruits et les 6 premiers mois de l'année se soldent par un bénéfice net de 27,1 millions de francs contre une perte de 8 millions sur la même période de l'an dernier. Et pourtant, les ventes de Public Group sont en baisse, Dominique Chauffat.
Un chiffre d'affaires qui s'établit à 714 millions de francs. C'est en effet une baisse de plus de 10% en un an, 10% de ventes en moins, liée essentiellement à la diminution du volume d'affaires dans la presse. Il faut dire que Public Group a subi de plein fouet une chute drastique du nombre de publicités, et ce à partir de l'été 2008 en raison de la crise économique. Mais surtout, Public Group a dû faire face à une révolution dans son principal domaine d'activité. Public Group, qui n'est plus l'intermédiaire incontournable qui vendait des espaces publicitaires pour les principaux médias de Suisse. Des contrats d'exclusivité, notamment celui avec Edipresse, ont été rompus. Des concurrents sont apparus sur d'autres supports, d'autres plateformes. Bref, Public Group a été dans l'obligation de revoir sa stratégie.
Une nouvelle stratégie donc, mais pour aller où ?
Un avenir qui est moins exclusif, c'est sûr. Public Group propose dorénavant aux éditeurs une palette de prestations modulables en fonction de leurs besoins. On sent le groupe vaudois avance avec prudence dans ce domaine, histoire de ne pas tout perdre ses acquis. Le groupe garde encore un avantage, un petit avantage, une avance en termes de savoir-faire en la matière. Et puis le groupe vaudois développe aussi ses activités online, l'internet qui progresse avec un bond de plus de 38% grâce notamment au nouveau portail immobilier suisse www.home.com. publicgroup.ch et à certaines acquisitions dans le marketing sur Internet. Public Group sème des graines, on espère en cas de germe à l'avenir.
Dominique Chauffa, merci. À Genève, la Cour des comptes épingle l'application informatique qui régit le temps de travail de la police judiciaire. L'utilisation de la conduite opérationnelle du personnel de police, le COP, aurait donné lieu à des erreurs sur les bulletins de salaire et des pertes de temps. Pierre-Antoine Préti.
Oui, mise en service en avril 2007, le COP permet aux policiers de contrôler et de modifier leur horaire. Mais saisie par le syndicat de la police judiciaire, la Cour des comptes s'est penchée sur l'outil. Et elle y constate que l'application de ce programme est loin de donner satisfaction. En effet, paramétré différemment selon les brigades, le programme COP a produit quelques incongruités. Les policiers, par exemple, ne calculaient pas tous leurs heures de la même manière. Pour la Cour des comptes, le paramétrage des données aurait dû être l'affaire de l'état-major de la police judiciaire entre 2003 et 2007. Un état-major jugé défaillant sur ce point. Et au final, le juge Stanislas Zouin a transmis 17 recommandations au département de la sécurité. Isabelle Rochat a pris bonne note de ces recommandations. Des groupes de travail ont d'ores et déjà été constitués. Rappelons qu'à Genève, la révision du fonctionnement et de l'organisation de la police fait partie du programme de législature. La Cour des comptes ne donne ici qu'un coup d'accélérateur supplémentaire à la réalisation de cet objectif.
Pierre-Antoine Préti, en direct de nos studios de Genève. Merci. En visite au Brésil, le conseiller fédéral Didier Burkhalter remettra cet après-midi un cadeau de poids et de taille au ministre brésilien de l'Éducation, Fernando Haddad. Un super ordinateur offert par les PFL à un centre de recherche en neurosciences du nord du pays. Ce super calculateur de 6 tonnes, baptisé Blue Jean, n'est pas encore arrivé sur place, mais on sait déjà qu'il aura pour mission d'aider à la recherche sur la maladie de Parkinson. Patrick Ebichère, président de l'EPFL.
La cause, c'est parce qu'un de nos professeurs, Miguel Nicolelis, est brésilien. Il a développé ici, dans le Natal, dans le nord-est, dans la partie pauvre du Brésil, un institut de neurosciences d'excellente qualité. Et il fait des recherches qui font qu'il a besoin d'un superordinateur. Donc c'était une merveilleuse occasion, puisque nous avons changé d'ordinateur. On a pris un plus puissant. Mais au lieu de le mettre Dieu sait où, on s'est dit, bien, ça serait bien de le faire, puisqu'on a maintenant une collaboration avec cet institut de neurosciences au Natal, entre les PFL, de mettre à disposition ce superordinateur, qui va être le super ordinateur le plus puissant sur l'hémisphère sud. Donc c'est quand même un geste symboliquement important, mais aussi scientifiquement important, puisqu'il va pouvoir permettre justement le développement de cette collaboration à différents groupes de recherche suisses et brésiliens.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial au Brésil, Agnès Schenker. Et puis un mot encore pour vous dire que l'avocat de Bernard Rapin annonce ce matin que le chanvrier valaisan a repris sa grève de la faim après avoir été reconduit en prison jeudi dernier. Sur le plan juridique, il attend le détail du jugement du tribunal fédéral pour décider de la suite à donner à la procédure.
Radio Suisse Romande, le journal de la mi-journée, David Racana.
Musique avec le festival Terre des Hommes Vallées qui débute vendredi à Massonger avec entre autres Imour Vigny et Louis Bertignac, rappelez-vous.
Faut pas me laisser traîner là. Seul avec ces idées-là. Bébé, j'suis pas si fort que tu crois.
Ces idées-là, le tube planétaire que vous avez composé, Louis Bertignac, bonjour.
Bonjour.
Vous serez vendredi soir sur la grande scène du festival Terre des Hommes Vallées. C'est important pour vous de donner de votre personne pour des causes comme ça humanitaires?
Bien sûr, c'est un honneur qu'on me fait en me demandant. Je vais tâcher d'être à la hauteur.
Votre actualité en ce moment, c'est une tournée qui s'arrête donc en Suisse. C'est aussi la préparation d'un nouvel album qui doit sortir en janvier ou février. Vous pouvez nous en dire un mot?
Exactement, il est en fin de préparation. On en est à la fin du mixage même, il est vraiment fini. Et question de tournée, ça s'arrête pas là, hein, parce que juste après je pars en Australie, en Indonésie, à Nouméa, enfin une tournée assez sympa.
Alors c'était un peu le buzz de l'été, Louis Bertignac, la possible reformation du groupe Téléphone, dont vous étiez, on le rappelle, le guitariste. Il y a du neuf de ce côté-là, aux dernières nouvelles, je crois que vous disiez que si ça devait se faire, ce serait en tout cas pas avant 2013.
Oui, en 2013 ou 2014 ou 2015, je sais pas, mais On n'est pas prêt là, c'est sûr, parce que bah, justement, je sors mon album en janvier-février. Jean-Louis Aubert, à peu près au même moment, peut-être un peu avant. Et on sait qu'on adore tourner quand on sort un disque, et donc on est parti pour un an ou deux de tournée, forcément. Et donc, c'est mal barré pour faire téléphone à ce moment-là.
Ce retour de téléphone, c'est vraiment quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ce qui vous manque, c'est juste finalement le temps et de la place dans l'agenda.
Il y a de ça, oui. Ça me tient à cœur. Disons, je suis pas pressé, je me sens pas du tout pressé de le refaire, mais on a bien parlé ensemble, on a dîné ensemble plusieurs fois, et puis on s'est dit que oui, il faut qu'on refasse une tournée simplement pour entendre ces chansons chantées par le public.
Alors vous, vous avez donné un coup de pouce à la jeune chanteuse Joyce Jonathan qu'on a reçue dans ce journal il y a quelques mois. Son album a été rapidement disque d'or. Vous aimez finalement mettre votre compétence, votre talent à la disposition des autres?
Oui, quand on me le demande et quand ça me plaît, quand je sais où aller. Et puis ça m'amuse et ça m'intéresse aussi de changer de style musical, de passer d'un truc bien rock comme je fais avec mon trio à des chansons douces avec une jolie voix féminine et puis un petit peu folk. Ça je sais faire et j'aime beaucoup. Puis ça me repose les oreilles.
Vous avez fait la une de la presse People ce week-end, Louis Bertignac, aux côtés de The Edge, le guitariste de U2.
Ah,
dans un club branché de Saint-Tropez.
Qu'est-ce
qui se raconte deux guitaristes comme ça, de ce talent-là quand ils se croisent?
Bah, pas grand-chose, comme tout le monde. On se dit, ouais, ça va, t'en es où? Tu tournes? Oui, je vais tourner là, et toi? Et là, moi là. Et puis on boit un coup, et t'es heureux? Ouais, je suis heureux, et toi? Oui, je suis heureux, ça va à peu près. Et t'as un médiateur sur toi, oui, on échange, on fait un petit échange, et voilà, quoi. C'était très bref, hein. Ils ont pris des photos, mais c'était très bref.
Beaucoup parlé, deux guitaristes de talent. Merci beaucoup, Louis Bertignac, d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal. Vous serez vendredi soir en concert au Festival Terre des Hommes Vallée à Massonger. Vous répondiez à l'invitation d'Yves Terrani. Merci, bon après-midi à vous.
Merci, au revoir.
Musique encore avec la montée en puissance aux États-Unis d'une génération de rappeurs musulmans qui ont grandi dans l'Amérique du 11 septembre et qui se servent du rap et du hip-hop pour véhiculer des messages positifs sur leur religion et leur communauté. Le reportage à Chicago d'Alexis Buisson.
Aïcha Dour et Amina Mohamed ont tous des grandes stars du rap. Un amour des mots, la rime facile et surtout l'envie de communier avec le public. Tous de futures stars donc, à ceci près que leur tête est recouverte d'un épais voile noir. Amina et Aïcha sont nées aux États-Unis de parents noirs musulmans. En août 2007, les deux amies de respectivement 20 et 21 ans ont formé un duo, Indigo, qui remporte un franc succès dans les écoles, les cafés et même les mosquées de Chicago. Leurs textes parlent de paix, d'identité et de foi, des messages qu'elles veulent positifs alors que l'Amérique voit en leur communauté un ennemi de l'intérieur.
Quand on est plongé dans autant de négativité, que tout le monde vous regarde bizarrement et que vous savez que l'image qu'ils ont de vous ne correspond pas à la réalité, eh bien oui, on a envie de donner de la voix.
Assad Jaffri est directeur de la programmation Aïman, une association musulmane qui organise un festival annuel réunissant des artistes musulmans du monde entier. Pour lui, ce n'est pas le 11 septembre qui a poussé cette génération de rappeurs à bousculer les préceptes du Coran, mais plutôt une synthèse entre valeurs occidentales et islam. Assad Jaffri.
Hip-hop is accessible.
Le hip-hop et le rap sont devenus accessibles. On a envie de créer. Et nous vivons dans l'ère du digital. Les musulmans veulent s'exprimer aussi, mais ils veulent le faire en harmonie avec l'islam. Et ils ne veulent pas véhiculer des messages négatifs qui iraient à l'encontre de leur religion.
David Kelly était rappeur avant d'être musulman. Le jour, il est avocat dans le centre-ville de Chicago. Le soir, il est Capital D, un des artistes les plus en vue de sa discipline. Ses textes sont très poétiques et politiques, comme Miss America, une métaphore qui utilise l'hypocrisie des concours de beauté pour dénoncer la politique américaine au Moyen-Orient. Capital D reconnaît avoir hésité avant de remonter sur scène après sa conversion à l'islam en 2000. Et il n'est pas le seul rappeur musulman souvent confrontés à ce dilemme.
Pour les musulmans plus orthodoxes, il y a toujours une tension. Ils se demandent comment leur musique se concilie avec ce que dit le cheikh ou l'imam. D'ailleurs, certains artistes se retirent de la communauté quand ils travaillent. Ces cas de conscience n'existaient pas pour la génération de nos parents. Comme beaucoup d'entre eux ne sont pas nés aux États-Unis, il n'y avait pas d'oncle ou de père pour leur interdire de monter sur scène, ce qui n'est pas le cas pour nous.
Alexis Buisson à Chicago pour la radio suisse romande.
Tennis avec le coup d'envoi ce soir de l'US Open, dernier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison. Cinq Suisses sont en lice dans le tableau principal et deux d'entre eux démarrent la compétition aujourd'hui. La vaudoise Timea Bachinski et Roger Federer. Le Balois s'est présenté en pleine forme samedi devant la presse et il a toujours soif de victoire, Laurence Bonomé.
29 ans, plus de 20 ans passés une raquette à la main, dont 12 sur le circuit professionnel, Roger Federer fait désormais partie des anciens, ceux que de tout temps, de jeunes talentueux ont rêvé de bousculer, de détrôner. Sa résistance est exemplaire, même si désormais plusieurs joueurs sont capables sur un match de l'éloigner du sacre de plus, du record de plus après lequel il court encore et toujours. Au fil des ans, le Balois a dû apprendre à vivre avec des situations nouvelles, tenter tout d'abord de se faire une place parmi les légendes d'alors, puis vivre une suprématie qui touchait à l'extraordinaire, accepter ensuite que certains soient plus forts que lui sur une rencontre ou plus, comme Rafael Nadal, qui lui ravisse la place de numéro un mondial. La nouvelle donne rencontrée ces toutes dernières années, un corps qui lui rappelle qu'il a ses limites. À Wimbledon, sa défaite face à Thomas Berdych était due à un excellent adversaire, mais aussi à des douleurs, pour une fois, « J'avais des excuses », a-t-il déclaré. Aujourd'hui, Roger Federer dit être loin des pressions, certes différentes mais toujours présentes de ces différentes périodes de sa carrière, et jouer plus pour lui-même. Ses derniers résultats et le fait qu'il ait battu à nouveau des joueurs de haut niveau lui permettent d'aborder ce tournoi en pleine confiance. Il dit n'avoir aucune douleur, avoir beaucoup travaillé physiquement et vouloir reconquérir un titre qu'il n'aurait jamais dû laisser échapper l'an dernier. La soif de victoire, quand elle est inextinguible, est la marque des tout grands. Laurence Bolomé, Radio Suisse Romande, New York.
Et le plaisir d'accueillir notre première invitée de cette semaine spéciale rentrée littéraire dans le journal de la mi-journée. Bonjour Virginie Mouza.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, vous publiez votre deuxième roman, La vie adulte, chez Albin Michel. L'histoire d'une jeune fille confrontée au départ brutal et inexpliqué de sa mère alors qu'elle est encore adolescente.
Oui, et de là, une enquête va commencer, menée par son père, ambivalente, mensongère, duplice, et puis menée par elle-même, cette jeune fille, pour savoir quelles sont les raisons qui ont amené sa mère à quitter sa famille, sa place de mère, sa place d'épouse, et comprendre ce qui se passe.
Alors on se met vraiment dans la peau de cette adolescente à la lecture de votre livre. Il y a toute cette ambiance du début des années 70, la Ford Tonus de papa, le manteau de fourrure de maman. Pourquoi finalement vous avez ancré le récit à cette époque-là ?
Déjà techniquement, il me fallait en fait une période de temps où les gens peuvent disparaître, contrairement à aujourd'hui, où on est traçable, quoi qu'il arrive et où qu'on soit. Donc une période qui est avant l'Internet, avant les téléphones portables, tout ça. Et puis, pour des lecteurs de ma génération, 40 années et quelques, les années 70 sont encore assez fraîches dans la mémoire. Donc il y a une empathie possible avec les années 70. Chose qu'il n'y aurait peut-être pas eu avec les années 50 ou les années 60. Voilà, donc c'était plus pratique, plus frais, plus plausible. Et puis la troisième chose, dont je me suis aperçue un peu à la fin, en fait, c'est venu presque par inadvertance, c'est que le début des années 70 sont quand même assez capitales pour les femmes, et les femmes françaises particulièrement, et ça compte dans cette histoire.
Après le départ de sa mère, donc la jeune Dominique réalise ce que vous appelez le pouvoir des absents, une présence fantomatique incarnée par les objets, les effluves de Guerlain.
Oui, je suis assez fascinée par l'absence des présents. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un décès, d'un deuil, de mourir, pour autant ne plus être là. Quelquefois, quelqu'un qui est à côté de vous ou pas loin peut disparaître à vos yeux, disparaître de votre cœur, disparaître de votre vie. Et commence alors une espèce de surprésence. Qui est signifié par mille petites choses que la personne a laissé, ou physiquement, un parfum, des vêtements, un sillage olfactif, ou dans la tête. Et c'est parfois même encore plus fort.
Sur la relation de l'héroïne avec son père, on constate aussi une amertume. Elle constate, elle, avec amertume, que ses attentions sont à double tranchant, ce que vous appelez l'invisible agressivité des gentils, une volonté de domination drapée dans l'attention aux autres.
En fait, ce père qui est très très gentil, qui est dans la consolation, qui est dans la réparation, pour qui sa fille est toujours ma chérie, montre l'air de rien en filigrane une détermination incroyable à vouloir être heureux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et derrière cette apparente gentillesse, cette douceur quotidienne, omniprésente, y a cet homme qui décide que, même si sa femme est partie, et il n'est a priori écrit nulle part dans le livre qu'ils aient cessé de s'aimer. Néanmoins, elle est partie. Il décide qu'il sera heureux et qu'il s'attachera à de nouveaux objets de désir, quels qu'ils soient. Et donc, derrière cette douceur des choses et cette douceur de ce papa, il y a quelqu'un comme ça qui est très, finalement, très déterminé.
Comme dans votre premier roman, Une femme sans qualité, vous explorez l'univers féminin à travers les absences, les étapes qui font qu'on se sent femme ou pas. C'est une thématique qui vous inspire particulièrement.
Oui, 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 c'est évidemment une thématique qui m'inspire beaucoup parce que les femmes derrière toute leur panoplie de femmes, un corps féminin, un parfum, du maquillage, un vison, pourquoi pas en l'occurrence dans la vie adulte, etc., ont mille façons de masquer leur présence ou leur absence. Et c'est ça qui m'intéresse.
Votre premier livre publié l'an dernier a remporté le prix Coup de cœur du magazine Marie Claire. Vous savez donc avec ce deuxième livre que vous êtes attendu au tournant. Vous le vivez comment? Il y a une pression supplémentaire?
Oui, il y a bien sûr une pression supplémentaire. J'ajoute à ça que le premier livre étant sorti en janvier 2009, qui est une petite rentrée littéraire qui compte, mais elle n'a malgré tout rien à voir avec la rentrée littéraire de septembre, où là il y a 700 romans qui sortent. Donc déjà il faut surnager au milieu de toute cette jungle. Et puis bien sûr il y a de la pression, comme vous dites, on m'attend au tournant et j'adore ça, c'est génial.
Et quels sont les premiers échos par rapport à ce livre, La vie adulte?
Plutôt très bon. Je ne vais pas être modeste, je suis très contente parce que voilà, dans la presse qui est sortie ce week-end, dans Lire, Le Figaro Madame, Le Elle, il y a des très bons échos, des très bons papiers et j'en suis très contente.
On le disait, vous êtes également journaliste au Figaro, est-ce que vous comptez vous consacrer uniquement à l'écriture ?
Je pense que l'écriture littéraire sur papier, pourquoi pas un jour, peut-être pas loin, l'écriture visuelle sous forme de film, c'est assez connexe avec l'écriture de roman. Tout ça se tient, donc je pense que ça devrait marcher ensemble.
Merci beaucoup en tout cas Virginie Mouzat d'être venue en direct dans ce journal depuis nos studios de Paris pour nous parler de votre deuxième roman très réussi, La vie adulte, qui vient de paraître chez Albin Michel. Référence de l'ouvrage sur notre site internet rsrinfo.ch. Merci beaucoup, excellent après-midi.
Merci.
À vous. Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en hausse de 0,37% à 6206 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Pascal Bénard.
Les éclaircies se sont révélées plus généreuses qu'attendues dans la matinée au-dessus du plateau. Ailleurs, le ciel est resté assez couvert, surtout à la montagne. Le temps restera très changeant cet après-midi. Les nuages s'agglutinent le long des Alpes et des Préalpes, où ils donneront encore des averses. La limite des chutes de neige se situe vers 1800 mètres. Au moment le moins frais, les températures en plaine varieront de 14 à 16 degrés. Les averses cesseront à peu près partout au cours de la nuit. L'amélioration des conditions s'annonce plus rapide que prévu demain matin. Des nuages résiduels traîneront le long du Jura et des Préalpes avant midi. Ailleurs, le soleil s'imposera rapidement. Le fond de l'air sera très frais demain à l'aube. Les températures avoisineront 8 degrés à basse altitude. Grâce à l'ensoleillement plutôt généreux, les maxima varieront de 18 à 20 degrés, 20 degrés en Valais. Une bise assez tenace accentuera la sensation de fraîcheur dans le bassin lémanique. L'embellie sera plus nette mercredi.
La météo avec De Villars. Solution d'impression en réseau.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Suite de notre semaine spéciale rentrée littéraire, demain, nous recevrons Corinne Blou-Bosselet pour le livre Séparable, publié aux éditions JBZ et compagnie. Ce journal de la mi-journée sera diffusé dans quelques instants sur Espace 2 et vous pouvez le réécouter en tout temps sur notre site internet rsrinfo.ch, rubrique Le 12-30, et le journal de la mi-journée est également sur Facebook. Excellent après-midi, les 13h.